From the conference center at...
Ici le centre de conférence Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 176e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales, les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Des membres et des officiers de l'Église sont venus du monde entier pour recevoir les conseils et les enseignements de leurs dirigeants ecclésiastiques.
This broadcast is for...
L'émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
Thomas
Monson, premier conseiller de la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Nous souhaitons la bienvenue à la première session de la 176e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Hinckley, qui préside cette conférence, m'a demandé à moi, frère Monson, de diriger cette session. Nous saluons les autorités générales assises sur l'estrade du centre de conférence et de l'Assembly Hall, ainsi que les présidences générales de la Société de secours, des jeunes gens, des jeunes filles, de l'école du dimanche et de la primaire qui assistent à cette conférence. Nous souhaitons une chaleureuse bienvenue aux personnalités du gouvernement, du monde de l'enseignement et aux édiles qui sont prévus parmi nous. Nous remercions les propriétaires et exploitants des nombreuses chaînes de télévision et stations de radio et des réseaux de diffusion par satellite et par câble qui offrent leur concours à titre de service public afin de transmettre cette conférence à un vaste auditoire dans de nombreuses régions du monde. Nous sommes également contents d'offrir ces sessions par Internet sur le site officiel de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par leur chœur du Tabernacle sous la direction de Craig Jessop et Mac Wilberg avec Richard Elliott et John Longhurst à l'orgue. Le chœur ouvre cette session en chantant « Arise, O God, and shine » et va maintenant nous interpréter « Dieu veut nous garder ». Ensuite, Merrill J. Bateman, la présidence 70, fera la prière d'ouverture.
Our Father in heaven,
Père céleste, le cœur rempli d'humilité et de joie, nous nous adressons à toi au début de cette magnifique conférence générale de ton Église sur la terre. Il y a des milliers de personnes présentes dans ce centre de conférence, Père, et des millions dans leur foyer sur la terre, et qui te reconnaissent comme leur Père, et que tu es Dieu et que nous sommes tes enfants. Nous t'adressons, t'exprimons notre reconnaissance pour notre Sauveur et le Fils unique, Jésus-Christ, reconnaissant notre sacrifice expiatoire qui nous permet de retourner à toi, reconnaissant du rétablissement de l'Évangile dans cette dispensation de la plénitude des temps. Nous te remercions du prophète Joseph Smith, de la prêtrise et des clés de la prêtrise qui ont été données, qui ont été transmises jusqu'au président Hinckley, dans une chaîne ininterrompue de prophètes. Nous te remercions, Père, de notre prophète actuel, le président Hinckley. Nous sommes reconnaissants de l'avoir préservé. Nous te prions pour lui et pour ses conseillers, afin que pendant cette conférence, tu les régénères en leur accordant l'énergie dont ils ont besoin. Nous te remercions de ces frères et du Collège des Douze pour tous ceux qui vont prendre la parole au cours de cette conférence. Nous te prions de faire que leurs paroles se gravent dans notre esprit et dans notre cœur et que ton Saint-Esprit en témoigne, que nous réjouissions de leurs paroles et que sachions qu'elles viennent de toi. Nous te remercions, Père, de ce magnifique cœur. Te demandons de bénir tous ses membres pour que la musique de cette conférence soit un tribut à toi. Nous prions pour les gouverneurs des nations de la terre. Nous prions pour qu'ils restent ouverts ou qu'ils deviennent ouverts aux enseignements de l'Évangile, afin que ton œuvre puisse aller de l'avant, que ton Église s'implante dans toutes les nations du monde. Et au début de cette conférence, nous te demandons de faire que ton Saint-Esprit touche tous ceux qui écouteront. Nous te demandons ces bénédictions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Nous allons
maintenant entendre Gordon B. Hinckley, notre prophète bien-aimé. Après le discours du président Hinckley, le chœur chantera « Chaque être qui nous en oublie », le président Hinckley.
My brothers and sisters,
mes frères et sœurs, au moment où nous nous réunissons dans une nouvelle conférence générale, j'ai le plaisir de vous informer que l'Église continue à prendre de la force et de l'influence. En 1982, il y a quelque 24 ans, j'écrivais ceci dans mon journal. Je cite, « Pour la conférence générale d'octobre, nous aurons plus de 300 liaisons descendantes dans notre réseau satellite. Cela signifie que nous aurons plus de 300 centres de pieux où nos membres pourront se rassembler dans tout le pays et participer à la conférence. Aujourd'hui, on m'informe que l'Église possède 6066 lieux de réception satellite dans 83 pays. Comme je suis reconnaissant que la croissance numérique de notre population s'accompagne d'une augmentation de notre capacité de communiquer avec les saints des derniers jours dans le monde entier. Nous pourrions souhaiter plus de baptêmes aux États-Unis et au Canada, mais on pourrait le dire de partout dans le monde. Cependant, la moisson est abondante dans les quelques 160 pays où nous sommes. Là où il n'y a pas longtemps, il y avait très peu de saints des derniers jours, il y a aujourd'hui des paroisses et des pieux forts et des hommes et des femmes capables qui les dirigent. Nous sommes limités dans la capacité de nous déplacer, mais cela est compensé par le fait que la première présidence, les membres des 12 et les 70 peuvent s'adresser par satellite à de grands nombres de pieux de par le monde. Les situations changent. Mais notre message, lui, ne change pas. Nous rendons témoignage au monde que les cieux se sont ouverts, que Dieu, notre Père éternel, et son Fils, le Seigneur ressuscité, sont apparus et ont parlé. Nous témoignons solennellement que la prêtrise a été rétablie avec les clés et l'autorité d'apporter des bénédictions éternelles. Récemment, nous avons consacré le nouveau temple de Sacramento en Californie. C'est le 7e de cet État et le 123e du monde. Nous avons également commencé la construction d'un autre temple dans la région de Salt Lake. Nous avons le plaisir d'annoncer que la rénovation du tabernacle de Salt Lake avance comme prévu, et que ce temple unique et magnifique accueillera de nouveau le cœur du tabernacle pour ses émissions hebdomadaires. L'Église entreprend un énorme projet immobilier dans le but de protéger les environs de Temple Square. Cela coûtera cher, mais les dépenses ne seront pas couvertes par la dîme. Cependant, la fidélité de nos membres continue de se démontrer dans le paiement de la dîme et des offrandes. En somme, je ne peux qu'annoncer que le Seigneur bénit abondamment son Église et que notre devoir est de faire tout notre possible pour la promouvoir. Nous entendrons à présent les discours de nos frères et sœurs. Au cours de cette grande conférence, puisse l'Esprit du Seigneur dicter tout ce qui sera dit et fait, et que notre cœur et notre esprit soient remplis et débordent. C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
We will now be pleased to hear from
Elder Dallin. Maintenant, le plaisir d'entendre Dallin H. Oakes du Collège des Douze Apôtres. Après lui, nous entendrons Richard Winkle et Paul B. Piper des 70. Après leur discours, le chœur, l'assemblée chanteront Sauveur d'Israël. Après ce chant, David Baxter des 70 nous adressera la parole. Après lui, nous entendrons Robert C. Oakes, la présidence des 70. Il sera suivi par Russell M. Nelson du Collège des 12 apôtres. Le chœur chantera ensuite Dans nos foyers, tout est beau. Frère Oakes.
The Savior said, Come unto me.
Le Sauveur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Beaucoup portent de lourds fardeaux. Il en est qui ont perdu un proche ou doivent prendre soin d'une personne handicapée. D'autres ont été blessés par le divorce. D'autres encore aspirent au mariage éternel. Certains sont asservis à des substances ou à des pratiques provoquant une dépendance comme l'alcool, le tabac, la drogue ou la pornographie. D'autres ont des déficiences physiques ou mentales qui les diminuent. Certains doivent résister à des tendances homosexuelles. Certains ont des sentiments terribles de dépression ou d'incapacité. D'une manière ou d'une autre, beaucoup portent de fardons pesants. Notre Sauveur nous lance à chacun cette invitation aimante. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Les Écritures contiennent beaucoup de récits de guérison par le Sauveur de personnes qui étaient chargées. Il a rendu la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, guéri les paralytiques, desséché ou mutilé, rendu purs les lépreux et chassé les esprits impurs. Nous lisons souvent que la personne qui avait ces maux physiques était guérie. Jésus guérissait beaucoup de maladies physiques, mais il ne refusait pas la guérison aux gens qui cherchaient à être guéris d'autres maux. Matthieu écrit qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. De grandes multitudes le suivaient et il les guérissait toutes. Il est certain qu'il guérissait aussi les gens dont les maladies étaient émotionnelles, mentales ou spirituelles. Il les guérissait tous. Dans son premier sermon à la synagogue, Jésus a lu à haute voix cette prophétie d'Ésaïe. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. En déclarant qu'il était venu pour accomplir cette prophétie, Jésus a expressément affirmé qu'il guérirait les gens qui avaient des maux physiques et qu'il délivrerait aussi les captifs, libérerait les meurtris et guérirait ceux qui avaient le cœur brisé. L'Évangile de Luc contient beaucoup d'exemples de ce ministère. Il raconte que les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Il dit aussi qu'à d'autres occasions, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, et qu'il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Il rapporte aussi qu'une grande multitude de gens venus de Judée et de Jérusalem et de la contrée maritime de Sidon s'étaient rendus sur un plateau pour l'entendre et pour être guéri. Quand il est apparu aux justes dans le Nouveau Monde, le Sauveur a demandé aux boiteux, aux aveugles et aux gens qui avaient d'autres maux physiques de s'avancer. Il a lancé la même invitation aux gens qui sont affligés de toute autre manière. « Amenez-les ici, a-t-il dit, et je les guérirai. » Le livre de Mormon raconte que la multitude a fait avancer tous ceux qui étaient affligés de toute autre manière. Il devait y avoir parmi eux des personnes ayant toutes sortes d'afflictions physiques, émotionnelles ou mentales. Et l'Écriture témoigne que Jésus guérit chacun d'eux. Le Sauveur enseigne que nous aurons des tribulations dans le monde, mais que nous devons prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. Son expiation a assez de portée et est assez puissante, non seulement pour payer le prix du péché, mais aussi pour guérir chaque affliction de la condition mortelle. Le livre de Mormon enseigne, et il ira, subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce, et cela afin que s'accomplisse la parole qui dit qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. Il connaît nos anxiétés, et il est là pour nous. Comme le bon samaritain de sa parabole, quand il nous trouve blessés au bord de la route, il panse nos blessures et prend soin de nous. Mes frères et sœurs, le pouvoir guérisseur de son expiation est pour vous, pour nous, pour tous. On recherche son pouvoir guérisseur dont les paroles suppliantes de notre cantique « Maître, la tempête lance ». Maître, l'esprit en angoisse, je viens en remords à toi. Mon cœur est troublé de reproches. Éveille-toi, sauve-moi. Car ma pauvre âme succombe sous le poids des péchés. Je péris, ô mon Maître. Au secours. Viens me sauver. Nous pouvons être guéris par l'autorité de la prêtrise de Melchisédek. Jésus a donné à ses 12 apôtres ce pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Et ils sont allés annoncer la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Les 70 ont aussi été envoyés avec le pouvoir et l'ordre de guérir les malades. Si le Sauveur pouvait guérir tous ceux qu'il voulait, ce n'est pas le cas des hommes qui détiennent l'autorité de sa prêtrise. L'exercice de cette autorité par les mortels est limité par la volonté de celui à qui cette prêtrise appartient. En conséquence, nous apprenons que certaines personnes que les anciens bénissent ne sont pas guéries parce que leur mort est arrêtée. De même, quand l'apôtre Paul demande à être guéri de l'écharde qu'il a dans la chair et qui le tourmente, le Seigneur refuse de le guérir. Paul écrira plus tard que le Seigneur a expliqué « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Paul réagit avec obéissance en disant « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi ». Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Les bénédictions de guérison se produisent de toutes sortes de façons, chacune adaptée à nos besoins respectifs tels que les connaît celui qui nous aime le mieux. Parfois, une guérison traite notre maladie ou allège notre fardeau, mais parfois, nous sommes guéris en recevant de la force, de la compréhension ou de la patience pour supporter les fardeaux qui nous sont imposés. Le peuple qui a suivi Alma a été asservi par l'oppresseur. Quand il a prié pour être délivré, le Seigneur lui a dit qu'il le délivrerait par la suite, mais qu'entre-temps, il allégerait leur fardeau, de sorte qu'ils ne pourraient plus les sentir sur leur dos pendant qu'ils sont en servitude. Et cela, le Seigneur le ferait pour qu'il soit plus tard témoin, que lui, le Seigneur Dieu, intervient effectivement en faveur de son peuple dans ses afflictions. Dans ce cas, les fardeaux n'ont pas été enlevés au peuple, mais le Seigneur l'a fortifié de sorte qu'il put supporter ses fardeaux avec facilité et se soumit de bon cœur et avec patience à toute la volonté du Seigneur. La même promesse et le même effet s'appliquent à vous, mère veuve ou divorcée, personne seule qui êtes solitaire, personne qui vous occupez d'un proche dépendant et qui avait une lourde charge, personne n'a servi à la drogue, et à nous tous, quel que soit notre fardeau. Venez au Christ, dit le prophète, et soyez rendus parfaits en lui. Il peut parfois nous arriver de désespérer parce que nos fardeaux sont trop lourds. Quand il semble qu'une tempête fait rage dans notre vie, nous pouvons nous sentir abandonnés et nous écrier comme les disciples dans la tempête. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? À ces moments-là, nous devrions nous rappeler sa réponse. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Le pouvoir de guérison du Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous ôte nos fardeaux ou nous fortifie pour que nous puissions les supporter et nous en accommoder comme l'apôtre Paul, est là pour chaque affliction de la condition mortelle. Après que j'ai eu fait un discours de conférence générale sur les maux de la pornographie, j'ai reçu beaucoup de lettres de personnes affligées par cette drogue. Certaines de ces lettres venaient d'hommes qui avaient surmonté la pornographie. L'un d'eux m'écrit : « Il y a plusieurs leçons que j'ai glanées de mon expérience de sortie des ténèbres d'un péché qui domine si complètement la vie des gens qu'il prend au piège. Premièrement, c'est un problème majeur qui est incroyablement difficile à surmonter. Deuxièmement, la source la plus importante de soutien et de force dans le processus du repentir est le Sauveur. Troisièmement, l'étude intense et quotidienne des Écritures, le culte régulier au Temple et la participation sérieuse et contemplative à l'ordonnance de la Sainte-Seine sont tous des éléments indispensables d'un véritable processus de repentir. Cela, je suppose, vient de ce que toutes ces activités servent à approfondir et à fortifier nos rapports avec le Sauveur, notre compréhension de son sacrifice expiatoire et notre foi en son pouvoir de guérison. Venez à moi, dit le Sauveur, et vous trouverez du repos pour votre âme. Cet homme, lourdement chargé, s'est adressé au Sauveur, et chacun de nous peut le faire. Une femme dont le mariage était menacé par l'asservissement de son mari à la pornographie a écrit qu'elle s'est tenue à ses côtés pendant 5 années douloureuses. Puis un jour, elle a pu écrire « Par le don de l'expiation glorieuse de notre précieux Sauveur et par ce qu'il m'a enseigné au sujet du pardon, mon mari est finalement libre, et moi aussi. » Elle n'avait pas besoin d'être purifiée du péché, mais cherchait seulement à ce qu'un proche soit délivré de la captivité. Elle a donné ce conseil. Communiez avec le Seigneur. Il est votre meilleur ami. Il connaît votre souffrance parce qu'il l'a déjà sentie pour vous. Il est prêt à porter ce fardeau. Faites-lui suffisamment confiance pour vous en décharger et pour lui permettre de le porter pour vous. Alors, vous pouvez faire remplacer votre angoisse par sa paix dans le tréfonds de votre âme. Un homme a écrit à une autorité générale comment le pouvoir de l'expiation l'a aidé à se défaire de ses tendances homosexuelles. Après avoir été excommunié pour des transgressions graves qui violaient ses alliances du Temple et ses responsabilités vis-à-vis de ses enfants, il a dû choisir entre essayer de pratiquer l'Évangile ou poursuivre une voie contraire à ses enseignements. Je savais que ce serait difficile, a-t-il écrit, mais je ne me rendais pas compte de ce que par quoi j'allais devoir passer. Sa lettre décrit le vide et la solitude, et la souffrance incroyable qu'il a connue tout au fond de son âme pendant qu'il cherchait à revenir. Il a prié avec ferveur pour obtenir le pardon, parfois pendant des heures d'affilée. Il a été soutenu par la lecture des Écritures, par la compagnie d'un évêque aimant et par des bénédictions de la prêtrise. Mais ce qui a finalement pesé dans la balance a été l'aide du Sauveur. Il écrit, « Ce n'est que par lui et par son expiation. J'ai maintenant une immense gratitude. Mes souffrances ont parfois été presque plus fortes que ce que je pouvais supporter, et pourtant elles étaient bien petites comparées à ce qu'il a souffert. Au lieu des ténèbres qui étaient dans ma vie, il y a maintenant de l'amour et de la reconnaissance. » Il conclut. Certains professent que le changement est possible et que la seule solution, c'est la thérapie. Ils sont très instruits sur le sujet et ont tellement à offrir aux gens aux prises avec ces difficultés. Mais ce qui me préoccupe, c'est qu'ils oublient de faire participer notre Père Céleste à ce processus. Si l'on veut qu'il y ait changement, il doit se produire selon la volonté de Dieu. Une autre chose qui m'inquiète, c'est que beaucoup de gens se concentrent sur les causes de l'homosexualité. Il n'est pas nécessaire de savoir pourquoi j'ai ce problème. Je ne sais pas si je l'ai de naissance ou si c'est mon entourage qui y a contribué. Le fait est que j'ai ce combat dans ma vie, et ce qui importe, c'est ce que j'en fais dorénavant. Les personnes qui ont écrit ces lettres savent que l'expiation de Jésus-Christ et la guérison qu'elle offre font beaucoup plus que donner le moyen de se repentir de ses péchés. L'expiation nous donne aussi la force de supporter des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce, parce que notre Sauveur a aussi pris sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. Mes frères et sœurs, si votre foi, vos prières et le pouvoir de la prêtrise ne guérit pas une personne qui souffre d'un mal, le pouvoir de l'expiation lui donnera sûrement la force de supporter le fardeau. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, a dit le Sauveur, et je donnerai du repos à vos âmes. Je prie pour que chacun de nous, dans notre lutte contre les difficultés de cette vie, comme Mormon le prophète a prié pour son fils Moroni, que le Christ te console et que ses souffrances et sa mort et sa miséricorde et sa longanimité et l'espérance de sa gloire et de la vie éternelle demeurent à jamais dans ton esprit. Je témoigne de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous invite tous à aller à lui et à être rendus parfaits en lui. Il pansera nos blessures et il guérira ceux qui sont chargés. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Le président Hinckley vient de consacrer le 123e temple de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à Sacramento, en Californie. Ce beau temple dessert les 80 000 membres enthousiastes de l'Église de Sacramento et des environs. Plus de 168 000 personnes ont fait les visites guidées de ce temple. Il leur a été dit que les membres peuvent se rapprocher davantage du Sauveur Jésus-Christ dans ces édifices magnifiques que n'importe où ailleurs au monde. Nos membres savent que, grâce à Jésus-Christ, ils peuvent trouver la paix et l'espoir qui les soutiendront, eux et leurs familles, dans le monde actuel troublé. Quand vous irez au temple, vous aimerez votre famille plus profondément que jamais auparavant. Le temple concerne la famille. En servant davantage au temple, ma femme Karen et moi, nous nous aimons davantage, elle et moi, et nous aimons davantage nos enfants. Et cela ne s'arrête pas là. Cet amour s'étend à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, à nos tantes, à nos oncles, à nos cousins, à nos ancêtres et surtout à nos petits-enfants. L'esprit d'Élie est l'esprit de l'œuvre généalogique. Et, quand il est suscité par le Saint-Esprit, il pousse les pères à tourner leur cœur vers leurs enfants et les enfants à tourner le leur vers leur père. Grâce à la prêtrise, le mari et la femme sont scellés ensemble. Les enfants sont scellés à leurs parents pour l'éternité et par conséquent, la famille est éternelle et ne sera pas séparée à la mort. Quand nous étions de jeunes parents, ma femme et moi, avec de petits enfants au foyer, nous avons demandé à nos enfants d'apprendre les articles de foi par cœur. La récompense pour l'avoir fait était une sortie avec leur père. Nous avons été heureux que nos trois aînés aient réussi à le faire. Dès que notre fils de 7 ans a eu appris par cœur tous les 13 articles de foi, nous nous sommes assis pour choisir un soir et une activité que nous pourrions faire ensemble. J'étais si occupé par mon travail, les activités sociales et mes responsabilités de l'Église que je ne pouvais pas accorder une soirée à mon fils avant environ 2 semaines. Il a été cruellement déçu. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait, dans la ville où nous habitions, un bowling qui était ouvert toute la nuit. Nous avons immédiatement choisi une date et décidé de commencer à notre activité à 5 heures du matin. Nous avions prévu de nous lever à 4 heures, de prendre notre petit déjeuner, puis d'aller en ville. Le jour venu, j'ai senti quelqu'un qui me secouait l'épaule très tôt le matin. Quand j'ai essayé d'ouvrir les yeux, j'ai entendu mon fils demander « Papa, c'est l'heure ?» J'ai regardé à mon réveil. Il n'était que 2 heures du matin. J'ai dit « Va dormir, fiston, ce n'est pas encore l'heure. » Une heure après, la même chose s'est produite. Papa, c'est l'heure de partir? Après l'avoir renvoyé se coucher pour la deuxième fois, je ne pouvais pas m'empêcher d'être excité comme lui. Alors, vers 4 heures, nous nous sommes levés, nous avons mangé et nous sommes partis au bowling. Nous nous sommes beaucoup amusés. Je souhaiterais pouvoir dire que j'ai eu régulièrement des activités mémorables comme celle-là avec tous mes enfants, mais je ne le peux pas. Je suis de ces parents qui regrettent souvent de ne pouvoir revenir en arrière et changer une ou deux choses. Comme vous, je ne veux perdre aucun de mes enfants. Je veux être à jamais avec toute ma famille. Le temple nous donne à tous un espoir supplémentaire de continuer et d'améliorer nos relations, même après la vie actuelle. Les scellements effectués au temple promettent des bénédictions supplémentaires. Joseph Smith, le prophète, a déclaré, et il n'a jamais donné d'enseignement plus porteur de consolation. Le scellement éternel de parents fidèles et les promesses divines qui leur ont été faites pour services vaillants rendus dans la cause de la vérité sauveront non seulement eux, mais aussi leur postérité. Certaines brebis peuvent errer, mais l'œil du berger est sur elles, et tôt ou tard, elles sentiront les tentacules de la providence divine se tendre vers elles et les ramener dans la bergerie. Que ce soit dans cette vie ou dans la suivante, elles reviendront. Elles devront payer leur dette à la justice. Elles souffriront pour leurs péchés. Peut-être devront-elles emprunter un chemin plein de ronces, mais s'ils mènent finalement, comme le fils prodigue pénitent au cœur et au foyer d'un père aimant et miséricordieux, l'expérience douloureuse n'aura pas été en vain. Cette déclaration n'est-elle pas merveilleuse pour les parents à qui leurs enfants sont scellés? Examinons d'autres bénédictions qu'apporte le temple. La maison du Seigneur est un abri contre le monde. Les membres de Sacramento ont fait ce commentaire aux invités de leur visite guidée. Parfois, nous avons l'esprit tellement assailli de problèmes et tant de choses réclament notre attention immédiate que nous n'arrivons pas à penser clairement. Au temple, la poussière de la distraction semble se dissiper, le brouillard et la brume se lever, et nous pouvons voir des choses que nous ne pouvions pas voir auparavant. Fin de citation. La salle céleste du temple, surtout, est un endroit de paix, de tranquillité et de beauté. C'est un havre paisible où l'on peut réfléchir, méditer, prier et ressentir l'amour de notre Père céleste et du Sauveur. Lorsque nous méditons dans le temple, nos pensées se concentrent naturellement sur les membres de notre famille. Dans 2 Samuel 22:7, nous lisons les paroles de David. « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Le temple est un lieu de révélation personnelle qui nous apportera des bénédictions dans notre intendance. Le président Hinckley nous a dit, « Tout comme notre Rédempteur a donné sa vie en sacrifice par procuration pour tous les hommes et est ainsi devenu notre Sauveur, nous devenons, nous aussi, dans une petite mesure, lorsque nous faisons les ordonnances par procuration au temple, comme des sauveurs pour les personnes de l'autre côté du voile qui ne peuvent pas progresser avant que quelque chose soit fait en leur faveur par celles qui sont sur terre. » Fin de citation. Nous rendons ce grand service parce que nous nous sentons alors plus littéralement des liens avec nos frères et sœurs disparus. Le temple est un lieu pour connaître le Père et le Fils. C'est un endroit où nous ressentons la présence de Dieu. Joseph Smith, le prophète, a dit, « Je vous conseille à tous de tendre à ce qui est parfait et à rechercher de plus en plus profondément dans les mystères de la divinité. Et où devons-nous chercher ? Dans la maison de Dieu. Soyons des gens qui vont au temple et qui l'aiment. Je témoigne que le temple concerne la famille. Je témoigne aussi que tout dans le temple témoigne de Jésus-Christ. On y ressent son exemple d'amour et de service. Le temple est sa sainte maison. Je sais qu'il est le Fils de Dieu, notre Sauveur et notre Rédempteur, notre Médiateur et notre Avocat auprès du Père. Il nous aime et veut que notre famille soit heureuse et ensemble à jamais. Il veut que nous soyons tous actifs dans son temple. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Several days ago,
il y a plusieurs jours, nous avons parlé de discours lors d'un repas en famille. Notre fille de 13 ans, Clarissa, en préparait un pour la réunion de Sainte-Seine de notre branche de Moscou, et elle montrait une certaine inquiétude. Je l'ai rassurée en lui disant que tout irait bien, et j'exprimais un peu de mon angoisse en disant qu'au moins, elle n'aurait pas s'adresser à des milliers de personnes à la conférence générale. Clarissa m'a donné un peu de réconfort et m'a conseillé à son tour « Tout ira bien, papa. Fais juste comme si c'était une grande branche. » Mes frères et sœurs, vous êtes effectivement une très grande branche. J'ai choisi de m'adresser ce matin aux membres de première génération de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Vous êtes les premiers de votre famille à entendre et à accepter le message que l'Évangile de Jésus-Christ a été rétabli sur la terre à notre époque, avec actuellement des prophètes, des voyants et des révélateurs. Vous avez fait preuve d'humilité, avez exercé votre foi et vous êtes repenti de tous vos péchés en prenant sur vous le nom de Jésus-Christ par le baptême par immersion et vous avez reçu le Saint-Esprit. En étant les premiers de votre famille à accepter l'Évangile, vous devenez la première génération, une génération élue par laquelle les générations passées, présentes et futures peuvent être bénies. Il n'est pas facile d'être membre de l'Église de première génération. Vous prendrez un chemin que personne de votre famille n'a jamais emprunté. Les conditions autour de vous sont peut-être difficiles. Peut-être avez-vous peu ou pas d'amis ou de parents qui vous comprennent et vous soutiennent. Peut-être vous découragez-vous parfois, vous demandant si tout cela vaut la peine. Mon but ce matin est de vous assurer que si. Les membres de première génération occupent une place spéciale dans l'Église et dans leur famille. Saviez-vous qu'ils constituent plus de la moitié de la population de l'Église? Depuis les premiers jours de l'Église, les membres de première génération n'ont peut-être jamais représenté un pourcentage aussi élevé que la population de l'Église qu'aujourd'hui. Votre foi et votre témoignage sont une grande force et une grande bénédiction pour tous les autres membres. Grâce à vous, nous comprenons mieux les principes de l'Évangile et notre témoignage est renforcé. Vous ajoutez beaucoup de force à l'Église quand vous utilisez votre témoignage, vos talents, vos compétences, vos points forts et votre énergie pour édifier le royaume dans vos paroisses et branches. Vous êtes de grands exemples de personnes qui parlent de l'Évangile, qui font une mission, qui envoient leurs enfants en mission et qui accueillent de nouveaux membres. Vous tendez gentiment la main aux gens de votre entourage, en les édifiant et en les bénissant par votre service inspiré. Une très grande part de ce qui se fait dans l'Église ne pourrait s'accomplir sans vos efforts. Et surtout, vous, membres de première génération, vous occupez une place importante dans votre famille. Vous lui donnez l'exemple de vrais disciples de Jésus-Christ. Si vous vivez l'Évangile au foyer, votre entourage ressentira l'amour du Sauveur grâce à vous. Les gens ressentiront que vous êtes engagés dans une bonne cause, même s'ils ne comprennent pas ou n'ont pas assez de foi pour l'accepter. Soyez patient et gentil. Priez chaque jour pour savoir comment vous pouvez les servir. Et le Seigneur vous aidera à avoir une bonne influence sur votre famille. En restant bon et honnête, vous serez des modèles de fidélité et de droiture. Ces modèles façonneront votre vie, mais surtout, ils deviendront des valeurs pour votre famille et votre postérité. Vous, membres de première génération, êtes aussi la clé qui ouvre la porte des bénédictions du Seigneur aux membres de votre famille qui sont morts sans entendre parler de l'Évangile ni recevoir les ordonnances du salut. Vous avez la possibilité unique et l'honneur de commencer cette œuvre en leur faveur. Ils attendent que vous les trouviez et vous aideront à trouver leur registre. Quand vous les aurez trouvés, votre vie digne vous permettra de vous rendre au temple et d'accomplir pour eux les ordonnances essentielles. Ces ordonnances vous lieront à vos ancêtres et vous apporteront une grande force spirituelle. Parce que vous êtes membre de première génération, chacun de vos choix est important. Des décisions apparemment anodines influeront sur les générations passées et à venir, ainsi que sur votre vie. Au travail, le lendemain de son baptême, on a offert un verre d'alcool à Chris, jeune membre de première génération. Ses amis étaient tous là et buvaient. La pression de groupe était considérable. Personne d'autre que lui ne savait que la veille, il s'était fait baptiser et avait fait des promesses au Seigneur. Il a pris la décision de ne pas boire d'alcool et a été traité sans égard. Méditant plus tard sur cela, il a écrit : voilà maintenant 40 ans que j'ai fait ces promesses de baptême. Et je peux vraiment dire que j'ai respecté la parole de sagesse. Je crois que si j'avais accepté cette boisson, je n'aurais peut-être jamais pu la respecter. Mais Chris a tenu ses promesses de baptême. Il a ensuite rencontré et épousé une sœur de l'Église fidèle. Ensemble, ils ont élevé 8 enfants dans l'Église. Maintenant, ses descendants fidèles de la 6e génération se comptent par centaines. Des dizaines d'entre eux ont fait une mission et présenté l'Évangile à d'autres. Ces efforts généalogiques ont apporté les bénédictions de l'Évangile à des centaines d'autres personnes. Une petite décision prise par un membre de première génération a changé la vie de milliers de personnes. Voyez-vous maintenant toute l'importance de la première génération ? Comprenez-vous votre position importante et la bonne influence que vous pouvez avoir ? Veuillez ne jamais vous sous-estimer, ni sous-estimer le pouvoir que vous avez d'influencer les autres. Satan comprend qui vous êtes et fera tout son possible pour vous inciter à faire de mauvais choix. Tous, nous commettons parfois des fautes malgré tous nos efforts. Heureusement, le Seigneur a préparé un moyen pour que nous les surmontions en nous repentant et en remettant à l'expiation de son Fils. Ne vous découragez pas si vous commettez une faute. Le repentir et la diligence continuelle sont peut-être les moyens les plus importants de progresser pendant la première génération. Soyez patient et avancez en obéissant aux commandements. Dans l'Église, nous lisons et nous parlons beaucoup au sujet des pionniers des premiers temps de l'Église. Ils étaient membres de première génération, comme vous. Ils ont vécu chaque jour en surmontant les difficultés de famille, de travail et de foi. Ils ont mené une vie ordinaire et juste et ont servi fidèlement dans l'Église et béni leur famille. Quand ils tombaient, ils se relevaient et poursuivaient leur route. Maintenant, nous regardons en arrière avec respect et reconnaissance pour leur fidélité. Vous pouvez hériter du legs qu'ils ont laissé, étant vous aussi membre de première génération. Soyez fidèles, servez vos semblables, bénissez votre famille et faites de bons choix. Vous êtes la première génération, génération choisie pour bénir les générations passées, présentes et futures. Nous vous rendons hommage. Les générations passées et futures le feront aussi. Mais surtout, Dieu vous rendra hommage pour votre fidélité de membre de première génération. Au nom de Jésus-Christ, amen.
This is the 176th semi-annual general conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Il y a 39 ans, deux missionnaires du Seigneur ont frappé chez moi à Glasgow, en Écosse. Nous avons été profondément touchés par leur intelligence, leur humilité et leur foi. Chaque fois qu'ils étaient chez nous, nous ressentions l'amour et la paix. C'était un sentiment de pure bonté. Leur enseignement était personnalisé, sincère, et nous semblait bien connu. Nous sentions tout simplement que c'était vrai. Quelques semaines plus tard, nous nous sommes fait baptiser et confirmer. Immédiatement, nous avons été pris dans un cercle d'amitié et de gentillesse de la part des membres et des dirigeants de l'Église, qui étaient notre nouvelle famille. Alors a commencé un voyage qui a enrichi et béni chaque aspect de notre vie, en nous apportant l'impression profonde, apaisante et durable de savoir où nous allions. Dans l'espoir que cela pourra être utile aux nouveaux membres de l'Église, je vais aujourd'hui vous faire part de trois principes fondamentaux de l'Évangile que nous avons appris depuis. Premièrement, le pouvoir motivant et transformateur de la foi en Jésus-Christ. Cette foi est comme de l'oxygène spirituel. Si nous laissons la foi entrer librement en nous, elle éveille nos sens spirituels et leur donne vie. Elle apporte de l'air vital à notre âme. À mesure que la foi nous pénètre, notre sensibilité s'accorde au murmure de l'esprit. Notre intelligence est éclairée, notre pouls spirituel s'accélère et notre cœur est touché. La foi nourrit l'espérance. Nous changeons d'optique. Notre vision devient plus claire. Nous commençons à rechercher le meilleur et non le pire dans la vie et chez les autres. Nous acquérons un sens plus profond du but et de la signification de la vie. Le désespoir fait place à la joie. Cette foi est un don céleste, mais on peut la demander et la cultiver. Notre dictionnaire de la Bible suggère que souvent, la foi naît quand on entend le témoignage de personnes dotées de foi. La foi est alors nourrie si nous nous laissons aller à croire. Comme toutes les autres vertus, la foi est renforcée à mesure que nous l'exerçons, si nous vivons et si nous agissons comme si nous avions déjà une foi profonde. La foi est le produit d'un désir juste, de la croyance et de l'obéissance. Ainsi en est-il dans le livre de Mormon de l'exemple du père du roi Lamoni, qui, ayant entendu le témoignage d'Aaron, a été disposé à croire et à agir, au point d'être amené à dire humblement dans sa prière, « S'il y a un Dieu, et si tu es Dieu, veuille te faire connaître à moi, et je délaisserai tous mes péchés pour te connaître. » Il peut en être de même pour nous, si nous laissons l'esprit de témoignage nous toucher, si nous croyons, désirons, méditons, demandons, si nous cultivons notre foi. Deuxièmement, on progresse par le service. George Albert Smith, président de l'Église, a dit, « Ce n'est pas ce que nous recevons qui enrichit notre vie, mais ce que nous donnons. » Le service altruiste est un antidote merveilleux contre les maux qui découlent de l'épidémie mondiale d'abandon aux patients. Certains s'aigrissent ou s'inquiètent quand il leur semble qu'on ne leur accorde pas assez d'attention, alors que leur vie serait tellement enrichie s'ils faisaient plus attention aux besoins des autres. La réponse est d'aider à résoudre les problèmes des gens de notre entourage au lieu de nous inquiéter des nôtres. Vivons pour soulever des fardeaux, même quand nous sentons écrasés. Mettons-nous à la tâche au lieu de nous plaindre d'être privés des bénédictions de la vie. Développer notre âme par le service nous aide à surmonter nos soucis, nos inquiétudes et nos difficultés. Si nous concentrons nos forces à soulever les fardeaux des autres, il se produit quelque chose de miraculeux. Le fardeau diminue. Nous devenons plus heureux. Notre vie prend plus de sens. Troisièmement, le fait d'être disciple ne garantit pas d'être dispensé des tempêtes de la vie. Même si nous avançons prudemment et fidèlement sur le chemin droit et resserré, nous rencontrons des obstacles et des épreuves. Certains jours, peut-être même certains mois et certaines années, La vie est vraiment dure. Nous recevons notre lot d'adversité, de peine, de solitude, de douleur et de chagrin. Parfois, il nous semble en avoir plus que notre lot. Que faire quand l'adversité frappe? Il n'y a qu'une seule chose à faire. Se tenir ferme et la surmonter. Restez inébranlable, constant et fidèle. La véritable tragédie des tourbillons de la vie ne se produit que lorsque nous les laissons nous emporter loin de notre vraie voie. Dans ces moments de crise et d'épreuve, certains choisissent de quitter la foi au moment où il faut s'y accrocher le plus. Ils négligent la prière au moment même où il faut prier avec plus d'intensité et rejettent négligemment la vertu quand il faut la chérir. Nous abandonnons Dieu par crainte, caractéristique humaine, mais injustifiée qui nous est abandonnée. La vérité est que notre seule sécurité, notre seul espoir, consiste à nous tenir fermes au bien. Lorsque les ténèbres nous environnent, nous ne sommes perdus que si nous choisissons de lâcher la barre de fer qui est la parole de Dieu. La parabole du Sauveur au sujet de l'homme sage qui construit sa maison sur le roc a une grande force, justement parce qu'elle illustre le fait que les épreuves de la vie échoient également à l'homme sage. Les pluies sont tombées, les vents ont soufflé, les torrents sont venus. Pourtant, l'homme sage a survécu à tout parce qu'il avait construit sa maison sur un fondement solide, ce qui est crucial parce qu'il y est resté quand la tempête est venue. Dans sa description d'un pèlerin ou du voyage du disciple, John Bunyan a écrit « Qui veut voir la vraie valeur, qu'il vienne ici. Celui qui restera ici, constant, vienne le vent, vienne le mauvais temps, aucun découragement ne le fera renoncer une fois à son premier vœu manifesté d'être un pèlerin. » L'apôtre Paul a exhorté les Colossiens à demeurer fondés et inébranlables dans la foi, sans se détourner de l'espérance de l'Évangile qu'ils ont entendu. Aux gens de Corinthe a été donné le plus puissant témoignage suivant. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattu, mais non perdu. Qu'est-ce qui a rendu cette attitude possible? Paul en donne la raison. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est mon témoignage que si nous cultivons la foi par le service et restons constants et fidèles, quoi qu'il arrive, alors nous ressentons l'amour du Sauveur. Nous nous mettons en position de pouvoir accéder à la pleine mesure des bénédictions du sacrifice expiatoire. De membres, nous devenons disciples. Nous sommes renforcés, purifiés, rafraîchis, guéris spirituellement et émotionnellement. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
How thankful I am.
Comme je suis reconnaissant des écritures modernes au sujet des vertus chrétiennes fondamentales. Le livre de Mormon permet de mieux comprendre le rapport entre la patience et la charité. Après avoir fait observer que si un homme n'a pas la charité, il n'est rien, c'est pourquoi il doit nécessairement avoir la charité, Moroni poursuit en mentionnant les 13 éléments de la charité ou amour pur du Christ. Il est extrêmement intéressant que 4 des 13 éléments de cette vertu indispensable aient trait à la patience. Premièrement, la charité est patiente. La patience, c'est cela. La charité ne s'irrite pas, un autre aspect de cette qualité, de même qu'elle excuse tout. Et pour finir, la charité supporte tout, ce qui est certainement une expression de la patience. Ces éléments qui la définissent montrent bien que si la patience n'animait pas notre âme,
nous devrions nous considérer comme manquant gravement des vertus chrétiennes. Dans la Bible, Job est l'incarnation classique de la patience. Devant la perte de son vaste empire, ses enfants y compris, Job, grâce à sa foi indéfectible, a pu proclamer « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. » Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans toutes ses épreuves et toutes ses souffrances, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Combien de fois n'entendons-nous pas des gens qui sont opprimés demander en insensé « Comment Dieu a-t-il pu me faire ça à moi ?» alors qu'en réalité, ils devraient prier pour avoir la force de supporter tout. C'est dans la vie de Jésus-Christ que l'on trouve les plus beaux exemples de patience de l'Écriture. Sa longanimité et son endurance ont été le mieux démontrés au cours de cette nuit atroce à Gethsémané, au cours de laquelle il a dit dans son angoisse expiatoire, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il a effectivement souffert et supporté tout. Tandis qu'il était cloué à la croix du calvaire, le Christ a continué de donner l'exemple parfait de la patience quand il a exprimé les paroles extraordinaires « Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ces exemples de patience ont une plus grande signification pour nous quand nous réfléchissons à l'objectif sublime mais constructif qui nous est proposé dans trois Néphis. C'est pourquoi quelle sorte d'homme devriez-vous être? En vérité, je vous le dis, tel que je suis. Plusieurs passages d'Écriture soulignent l'importance de la patience. Jetons un coup d'œil sur quelques-unes d'entre elles. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Néanmoins, le Seigneur juge bon de châtier son peuple. Oui, il met à l'épreuve sa patience et sa foi. Dans Mosia, le roi Benjamin nous dit que nous serons l'homme naturel, ennemis de Dieu, jusqu'à ce que nous nous rendions au chuchotement du Saint-Esprit par notre patience et d'autres vertus. Joseph Smith a dit, « La patience est céleste. » La patience est-elle importante et mérite-t-elle que nous y réfléchissions et que nous la recherchions? Certainement, si nous voulons éviter la classification humiliante de gens qui ne sont rien utilisée pour désigner ceux qui n'ont pas la charité, si nous désirons être moins un homme naturel, ennemi de Dieu, si nous voulons être célestes, et si nous cherchons à être à la façon du Christ. L'homme naturel, impatient, est tout autour de nous. Nous le voyons se manifester dans les faits divers de parents qui, dans un accès de rage, battent un enfant, parfois à mort. Sur nos routes, l'énervement ou l'exaspération ont pour résultat des accidents violents et parfois des issues fatales. Sur un plan moins spectaculaire, mais beaucoup plus courant, il y a les accès de colère et les paroles dures prononcées dans les files d'attente, aux caisses des magasins, lors des appels incessants des démarcheurs par téléphone, ou parce que les enfants sont réticents à nous obéir. Tout cela vous dit-il quelque chose? Heureusement, il y a des histoires de grande patience, rarement signalées, mais merveilleuses à méditer. J'ai récemment assisté à l'enterrement d'un ami de toute une vie. Son fils a raconté une belle histoire de patience parentale. Quand il était jeune, son père était concessionnaire d'une marque de moto. Un jour, ils ont reçu un envoi de motos rutilantes, flambant neuves, et ils les ont toutes alignées dans le magasin. Le garçon a fait ce que tout garçon voudrait faire, et il est monté sur la plus proche. Il l'a même mise en route. Puis, se disant qu'il était allé aussi loin qu'il le pouvait, il est descendu de la moto. À sa grande consternation, son geste a renversé la première moto. Puis, comme des dominos, elles sont toutes tombées l'une après l'autre. Son père a entendu le vacarme et a passé la tête par la cloison derrière laquelle il travaillait. Avec un léger sourire, il a dit, « Fiston, il va falloir en réparer une et la vendre pour pouvoir payer les autres. » La réaction de mon ami incarne la patience parentale. On peut, à bon droit, considérer la patience comme une vertu d'entrée qui contribue à la croissance et à la force des vertus qui lui sont apparentées, le pardon, la tolérance et la foi. Quand Pierre lui a demandé combien de fois il devait pardonner à son frère, le Christ a répondu « 70 fois 7 fois » au lieu des 7 malheureuses fois proposées par Pierre. Pardonner 70 fois 7 fois demande certainement beaucoup de patience. Neil A. Maxwell a relié la patience à la foi quand il a enseigné. La patience est très étroitement liée à la foi chez notre Père Céleste. En fait, quand nous sommes indûment patients, ce que nous faisons, c'est prétendre que nous savons ce qui est le mieux et ce, mieux que Dieu. Ou, du moins, nous affirmons que notre calendrier est meilleur que le sien. Fin de citation. Nous ne pouvons que progresser dans la foi si nous sommes disposés à attendre patiemment que les desseins de Dieu se déploient dans notre vie selon son calendrier. Puisque l'impatience est si naturelle, comment cultiver la vertu divine de la patience? Comment faire passer notre comportement de celui de l'homme naturel à celui de notre exemple parfait de patience, Jésus-Christ? D'abord, nous devons comprendre qu'il faut le faire si nous désirons jouir pleinement des bénédictions de l'Évangile rétabli. Une fois que nous comprenons cela, cela pourrait nous motiver à lire dans le guide par sujet chacun des passages d'Écriture cités à patience et à méditer sur les exemples de patience donnés par le Christ. Deuxièmement, à nous évaluer pour voir où nous en sommes sur l'échelle de la patience. De combien plus de patience avons-nous besoin pour devenir plus semblables au Christ? Cette auto-évaluation est difficile. Nous pourrions demander à notre conjoint ou à un autre membre de la famille de nous aider. Troisièmement, à nous sensibiliser aux exemples de patience et d'impatience qui se produisent quotidiennement autour de nous. Nous devons nous efforcer d'imiter les personnes que nous considérons comme patientes. Et pour finir, à nous réengager chaque jour à devenir plus patients et veiller à ce que le membre de notre famille que nous avons choisi reste impliqué dans notre projet d'acquisition de la patience. Cela semble demander beaucoup de travail, mais tout objectif de valeur exige beaucoup d'efforts. Et vaincre l'homme naturel et travailler pour ressembler davantage au Christ dans notre patience est un but extrêmement valable. Je prie pour que nous poursuivions cette voie avec diligence et détermination. Je témoigne que Jésus est le Christ et qu'il est à la tête de l'Église, qu'il nous guide par l'intermédiaire d'un prophète actuel et qu'il donne sa bénédiction à tous les efforts que nous faisons pour devenir davantage comme lui. Et j'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Je me demandais si nous allions entendre le chœur, mais visiblement on n'a pas le temps. C'était une conférence formidable ce matin. Frères et sœurs, récemment, alors que j'étudiais le livre de Mormon, un enseignement du prophète Jacob a attiré mon attention. Comme vous en souvenez, Jacob était l'un des deux fils de Léhi, né dans le désert, après que la famille a quitté Jérusalem. Il a été le témoin oculaire de miracles et a vu sa famille se déchirer à cause de la désobéissance et de la rébellion. Jacob connaissait et aimait Laman et Lémuel, tout comme il connaissait et aimait Néphi. Et les dissensions qui s'étaient élevées entre eux lui étaient personnelles. Pour Jacob, ce n'était pas une histoire d'idéologie, de philosophie, ni même de théologie. C'était une histoire de famille. Jacob montre l'angoisse fraternelle qui l'étreint quand il exprime sa grande crainte que son peuple ne rejette les paroles des prophètes au sujet du Christ et nie le pouvoir de Dieu et le don du Saint-Esprit et tourne en dérision le grand plan de rédemption. Puis, immédiatement avant de dire adieu, il prononce 11 mots simples qui formeront la base de mon message de ce matin. Voici la supplication de Jacob. Oh, ayez de la sagesse. Que puis-je dire de plus? Ceux d'entre vous qui êtes parents ou grands-parents peuvent comprendre ce que Jacob a pu ressentir à ce moment-là. Il aimait son peuple, en partie parce que c'était aussi sa famille. Il l'avait instruit aussi clairement qu'il l'avait pu, et avec toute l'énergie de son âme, il l'avait averti sans ambiguïté de ce qui l'attendait s'il refusait d'entrer par la porte étroite et de continuer sur le chemin qui est resserré. Il ne trouvait rien d'autre à dire pour l'avertir, le presser, l'inspirer et le motiver. Alors il a dit, tout simplement et profondément, « Oh, ayez de la sagesse. Que puis-je dire de plus ?» J'ai rencontré les membres de l'Église dans de nombreux pays du monde. Je suis impressionné par l'esprit et l'énergie que me témoignent tant de nos membres. Des cœurs sont touchés et des vies sont bénies. L'œuvre avance avec dynamisme et j'en suis profondément reconnaissant. Mais je vois beaucoup de domaines dans lesquels les membres de l'Église doivent montrer beaucoup de sagesse dans ce qu'ils font. Le Seigneur, dans sagesse infinie, a conçu son Église sur la base d'un ministère laïque. Cela veut dire que nous avons reçu la responsabilité de veiller les uns sur les autres et de nous servir mutuellement. Nous devons nous aimer comme notre Père Céleste et le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Nos appels et les circonstances changent de temps en temps, nous donnent des occasions uniques et différentes de servir et de grandir. Dans l'Église, la plupart des dirigeants et des instructeurs sont ardemment engagés à s'acquitter de leurs responsabilités. Il est vrai que certains sont moins efficaces que d'autres, mais presque tout le temps, il y a un effort sincère pour apporter un service sérieux dans l'Évangile. Parfois, il se trouve des membres qui se donnent tant au service de l'Église que leur vie en est déséquilibrée. Ils en arrivent à croire que les programmes qu'ils font fonctionner sont plus importants que les gens qu'ils servent. Ils alourdissent leurs tâches de détails et d'ornements inutiles qui leur prennent beaucoup de temps, qui reviennent trop cher et demandent trop d'énergie. Ils refusent de déléguer ou de permettre à d'autres de grandir dans leurs responsabilités respectives parce qu'ils consacrent trop de temps et d'énergie à leur service pour l'Église. Les relations familiales éternelles peuvent se détériorer. Le rendement dans leur emploi peut en souffrir. Ce n'est bon ni pour leur santé, ni pour leur spiritualité. Même si, parfois, nos appels dans l'Église demandent un effort plus intense et une concentration inhabituelle, nous devons veiller à garder tout à sa juste mesure. Nous ne devons jamais permettre que notre service dans l'Église nous empêche d'accorder l'attention nécessaire à d'autres priorités de notre vie. Rappelez-vous le conseil donné par le roi Benjamin. Et veillez à ce que tout cela se fasse avec sagesse et ordre, car il n'est pas requis que l'homme court plus vite qu'il n'a de force. Je vais vous suggérer 6 manières de servir à la fois sagement et correctement. Premièrement, se concentrer sur les personnes et les principes, et non sur les programmes. Une des choses les plus importantes que nous accomplissons grâce à l'Évangile de Jésus-Christ, c'est de construire des personnalités. Servir les autres correctement implique de faire l'effort de les comprendre en tant qu'individus. Leur personnalité, leurs forces, leurs soucis, leurs espoirs et leurs rêves, afin de leur apporter l'aide et le soutien qui s'imposent. Honnêtement, il est plus facile de simplement gérer des programmes que de comprendre et de servir sincèrement les gens. Le but premier des réunions de formation de dirigeants dans l'Église devrait être de parler de la manière de servir les gens. La plupart des informations routinières et de coordination peuvent être transmises par téléphone, par email ou par courrier, de sorte que les ordres du jour pour les réunions de conseil et de présidence puissent se concentrer sur les besoins des gens. Notre objectif devrait être d'utiliser les programmes de l'Église pour édifier, encourager, aider, enseigner, aimer et perfectionner les gens. Souvenez-vous que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Les programmes sont des outils. Leur gestion et leur encadrement ne doivent pas prendre le pas sur les besoins des gens qui sont censés bénir et servir. Deuxièmement, soyez créatifs. En nous efforçant de magnifier nos appels, nous devrions chercher l'inspiration de l'Esprit pour résoudre les problèmes, afin de mieux aider les gens que nous servons. Nous avons des manuels d'instruction et nous devrions suivre leurs directives. Dans ce cadre, nous trouverons d'amples occasions de réfléchir, d'être créatifs et d'utiliser nos talents personnels. L'instruction de magnifier nos appels n'est pas un commandement de les embellir et de les compliquer. Innover ne veut pas forcément dire agrandir. Bien souvent, cela veut dire simplifier. Puisque le principe éternel du libre arbitre nous donne la liberté de choisir et de penser, nous devrions augmenter notre capacité de résoudre les problèmes. Il se peut que nous fassions occasionnellement des erreurs, mais dans la mesure où nous suivons les principes de l'Évangile, nous pouvons en tirer des leçons, mieux comprendre les autres et les servir plus efficacement. Être créatif signifie aussi qu'il n'est pas nécessaire qu'on nous dise tout ce que nous devons faire. Le Seigneur a dit, « Car voici, il n'est pas convenable que je commande en tout. » Car celui qu'il faut contraindre en tout est un serviteur paresseux et sans sagesse. Nous sommes certains que vous utiliserez votre inspiration. Nous avons confiance que vous le ferez dans le cadre des directives et des principes de l'Église. Nous avons confiance que vous serez sage dans vos concertations pour aider à construire la foi et le témoignage des gens que vous servez. Troisièmement, diviser le travail et déléguer les responsabilités. Il y a une différence entre être responsable de l'exécution du travail et le faire soi-même. Par exemple, il n'est plus question aujourd'hui qu'un président de collège des anciens ressente la nécessité d'aller faire les visites au foyer que les autres n'auraient pas faites. Il en va de même pour la présidente de la société de secours et des visites d'enseignement. Non seulement ce n'est pas sage, mais encore ce n'est pas une visite d'enseignement ou de l'enseignement au foyer. L'enseignement au foyer ne consiste pas en chiffres ou en nombre de visites. Les visites et les chiffres ne sont qu'un moyen d'évaluer. L'enseignement au foyer, c'est l'amour, le service, les soins que nous pouvons apporter aux enfants de notre Père Céleste. Les tâches doivent être distribuées, les responsabilités déléguées, et l'on doit permettre aux membres de remplir leur intendance de leur mieux. Conseillez, donnez votre avis, persuadez, motivez, mais ne faites pas le travail pour eux. Donnez aux autres la possibilité de progresser, même si parfois les résultats sont en dessous des espérances dans les rapports. Quatrièmement, supprimez la culpabilité. J'espère qu'il va sans dire que la culpabilité n'est pas une technique de motivation convenable pour les dirigeants et les instructeurs de l'Évangile de Jésus-Christ. Nous devons toujours motiver par l'amour et l'appréciation sincère et non en suscitant la culpabilité. J'aime cette pensée, attraper les autres en train de faire quelque chose de bien. Bien sûr, il y a des membres qui ont un sentiment de culpabilité résultant de leur service dans l'Église. Ces sentiments peuvent apparaître lorsque notre temps et notre attention sont partagés entre des nécessités et des priorités difficiles à concilier. En tant que mortels, nous ne pouvons pas tout faire à la fois. Nous devons tout faire avec sagesse et ordre. Souvent, cela implique de reporter à plus tard l'attention sur une priorité pour se consacrer à une autre. Parfois, les besoins familiaux nécessiteront votre attention totale. D'autres fois, vos responsabilités professionnelles passeront en premier. Et il arrivera que vos appels dans l'Église passeront en premier. On parvient à un bon équilibre en faisant les choses en temps voulu, en ne remettant au lendemain notre préparation et en n'attendant pas la dernière minute pour remplir nos responsabilités. Par-dessus tout, nous devons nous souvenir que le Christ est venu ôter la culpabilité en pardonnant à ceux qui se repentent. Il est venu apporter la paix aux âmes troublées. Il a dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Grâce à l'expiation miraculeuse, il nous lance l'exhortation. Prenez mon joug sur vous, et vous trouverez du repos pour vos âmes. À mesure que le miracle de l'expiation commence à opérer dans notre vie, nous comprenons que le Sauveur a déjà porté le fardeau de notre culpabilité. Oh, ayons assez de sagesse pour comprendre, pour nous repentir selon qu'il est nécessaire, et pour abandonner notre culpabilité. Cinquièmement, nous devons gérer de manière réfléchie nos ressources de temps, d'argent et d'énergie. Je vais vous confier un petit secret. Certains parmi vous sont déjà au courant. Si vous ne l'êtes pas, alors il est temps que vous sachiez. Quels que soient les besoins de votre famille ou vos responsabilités dans l'Église, rien n'est jamais fini. Il y aura toujours plus à faire que nous ne le pouvons. Il existe toujours une affaire familiale qui requiert notre attention, une autre leçon à préparer, un autre entretien à tenir, une autre réunion à laquelle assister. Donc, tout ce qu'il faut, c'est que nous ayons la sagesse de protéger notre santé et de suivre le conseil que le président Hinckley nous a donné de faire simplement de notre mieux. Pour moi, la clé semble être de connaître et de comprendre vos capacités, vos limites, et de fixer votre rythme en mettant des priorités de temps, d'attention et de ressources pour aider sagement les autres, dont votre famille, dans sa quête de la vie éternelle. Sixièmement, un mot à vous, dirigeants, à propos des responsabilités à confier aux membres, particulièrement aux nouveaux membres. Le président Hinckley a dit que chaque nouveau membre a besoin d'une responsabilité. Quelle que soit la responsabilité proposée, elle ne doit en aucun cas submerger les nouveaux membres, mais leur donner plus de possibilités de se sentir à l'aise dans l'Église en apprenant sa doctrine et en côtoyant des membres amicaux. Cela devrait les ancrer dans l'Évangile rétabli en faisant grandir leur témoignage et en leur donnant des occasions de servir. Mes frères et sœurs, puissions-nous nous concentrer sur les manières simples de servir dans le royaume de Dieu en nous efforçant toujours de changer des vies, y compris la nôtre. L'important dans nos responsabilités dans l'Église, ce ne sont pas les statistiques sur un rapport ou les réunions tenues, mais c'est que la personne que l'on sert, une à la fois, tout comme le Sauveur l'a fait, donc que cette personne a été édifiée, encouragée, en fin de compte, changée. Notre tâche est d'aider les autres à trouver la paix et la joie que seul l'Évangile peut leur donner. En sept mots, Jésus a résumé la manière d'y parvenir. Il a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » De bien des manières, notre époque ressemble à celle de Jacob. Je vous conseille, comme l'a fait Jacob, de vous repentir et de venir d'un cœur pleinement résolu et de vous attacher à Dieu comme il s'attache à vous. Frères et sœurs, ayez de la sagesse avec votre famille. Ayez de la sagesse en remplissant vos appels dans l'Église. Ayez de la sagesse avec votre temps. Ayez de la sagesse en conciliant toutes vos responsabilités. Oh, ayez de la sagesse, mes chers frères et sœurs. Que puis-je dire de plus? Je prie Dieu de nous accorder la sagesse d'aimer son Fils Jésus-Christ et d'accomplir son œuvre avec sagesse. Je vous rends mon témoignage qu'il vit. Ceci est son Église. Ceci est son œuvre. Puisse la paix du Seigneur être avec vous et puissions-nous nous acquitter de nos appels. Je prie pour cela humblement. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Nous remercions le chœur du tabernacle de la belle musique qu'il a interprétée ce matin. ainsi que toutes les personnes qui ont participé à la session. Notre dernier orateur de cette session sera James E. Faust, deuxième conseiller de la première présidence. Après le discours du président Faust, le chœur chantera « Israël, ton Dieu t'appelle ». Ensuite, Richard Maines, des 70, fera la prière de clôture et la conférence sera interrompue jusqu'à 14 heures cet après-midi. Frère Faust.
Une grande foule suivait le Sauveur pendant qu'il enseignait au bord de la mer de Galilée. Pour qu'un plus grand nombre puisse l'entendre, il est monté dans la barque de pêche de Pierre et a demandé qu'on le mène à une petite distance du rivage. Après qu'il a eu fini de parler, il a dit à Pierre, qui avait pêché sans succès toute la nuit, de s'avancer dans le lac et de jeter ses filets en eau profonde. Pierre a obéi et a pris tant de poissons que les filets se sont brisés. Il a appelé ses associés, Jacques et Jean, à son aide. Tous ont été stupéfaits du nombre de poissons qui ont été pêchés. Jésus a dit à Pierre, « Ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Luc nous dit alors, « Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout. » et le suivirent. Ils sont devenus disciples du Seigneur. Les mots « disciple » et « discipline » viennent tous les deux de la même racine latine, « discipulus », qui signifie « élève ». Elle met l'accent sur la pratique ou l'exercice. L'autodiscipline et la maîtrise de soi sont des caractéristiques constantes et permanentes des disciples de Jésus, comme le montre l'exemple de Pierre, Jacques et Jean, qui en effet laissèrent tout et le suivirent. Qu'est-ce qu'être disciple? C'est principalement obéir au Sauveur. Être disciple, cela implique beaucoup de choses. C'est la chasteté, c'est la dîme, c'est la soirée familiale, c'est respecter tous les commandements, c'est abandonner tout ce qui n'est pas bon pour nous. Tout dans la vie a un prix, compte tenu de la grande promesse du Sauveur que nous aurons la paix dans cette vie et la vie éternelle dans la vie à venir, être disciple est un prix qu'il vaut la peine de payer. C'est un prix que nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas payer. En comparaison, les exigences imposées aux disciples sont de beaucoup inférieures aux bénédictions promises. Les disciples du Christ reçoivent l'appel non seulement d'abandonner la recherche des choses profanes, mais de porter quotidiennement leur croix. Porter la croix signifie suivre les commandements du Christ et édifier son Église sur la terre. Cela signifie également la maîtrise de soi. Comme Jésus de Nazareth nous l'a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Les paroles d'un chant bien-aimé de la primaire trouvent un écho chez tous ceux qui suivent le Maître. « Jésus-Christ est mon modèle. Je marcherai sur ses pas, montrant mon amour ainsi qu'il le fit à chaque instant de ma vie. » Examinons quelques-unes des choses que Jésus a faites et que nous pouvons tous imiter. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Nous pouvons tous faire quelque chose de bien tous les jours, pour un membre de la famille, pour un ami, ou même pour un inconnu, si nous recherchons ces occasions. Jésus était le bon berger qui veillait sur ses brebis et se préoccupait de celles qui étaient perdues. Nous pouvons partir à la recherche des solitaires ou des non-pratiquants et les traiter en amis. Jésus a eu compassion de beaucoup de gens, y compris d'un pauvre lépreux. Nous aussi, nous pouvons avoir de la compassion. Le livre de Mormon nous rappelle que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Jésus a rendu témoignage de sa mission divine et de la grande œuvre de son Père. Pour notre part, nous pouvons tous être les témoins de Dieu en tout temps. Jésus invitait les petits-enfants à venir à lui. Nos enfants ont besoin de notre attention et de notre amour aussi bien que de nos soins. Les vrais disciples du Sauveur doivent être disposés à donner leur vie, et certains ont eu la faveur de le faire. Les doctrines et alliances nous recommandent que nul ne craigne de donner sa vie à cause de moi, car quiconque donne sa vie à cause de moi la retrouvera. Quiconque n'est pas disposé à donner sa vie à cause de moi n'est pas mon disciple. Nous lisons dans le livre des Actes l'histoire du disciple Étienne, qui était plein de grâce et de puissance et faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Étienne a rencontré à Jérusalem un auditoire hostile, qu'il a accusé faussement de blasphème, alors même qu'il était transfiguré devant lui. Étienne a témoigné de la divinité du Sauveur, et quand il a appelé la foule au repentir, plusieurs l'ont lapidé. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ses dernières paroles ont été « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Dans les premiers temps de l'Église au Mexique, deux dirigeants fidèles, qui étaient des disciples du Christ, ont subi le martyre à cause de leur croyance. Ces deux frères, à qui la vie a été ôtée, étaient Rafael Monroe et Vicente Morales. Pendant la Révolution mexicaine, Rafael Monroe était président de la petite branche de San Marcos au Mexique, et Vicente Morales était son premier conseiller. Le 17 juillet 1915, ils furent arrêtés par les zapatistes. On leur dit qu'ils seraient épargnés s'ils abandonnaient leurs armes et renonçaient à leur étrange religion. Frère Monroe dit à ses ravisseurs qu'il n'avait pas d'armes et tira simplement de sa poche sa Bible et son livre de Mormon. Il dit, « Messieurs, ce sont là les seules armes que je porte. Ce sont les armes de la vérité contre l'erreur. » Comme on ne trouvait pas d'armes, les frères furent cruellement torturés pour leur faire révéler où des armes étaient cachées. Mais il n'y en avait pas. On les emmena alors sous bonne garde à l'extérieur de la petite ville, où leurs ravisseurs les placèrent près d'un grand frêne devant un peloton d'exécution. L'officier responsable leur offrit la liberté s'ils renonçaient à leur religion et rejoignaient les zapatistes. Mais frère Monroe répondit, « Ma religion m'est plus chère que ma vie et je ne peux pas y renoncer. » On leur dit alors qu'ils allaient être exécutés, et on leur demanda s'ils avaient une demande à faire. Frère Raphaël demanda pouvoir prier avant son exécution. Il s'agenouilla en présence de ses bourreaux, et d'une voix que tous pouvaient entendre, pria Dieu de bénir et de protéger ses proches et de prendre soin de la petite branche en difficulté qui allait rester sans dirigeant. Il termina sa prière en utilisant les paroles du Sauveur quand il était sur la croix et pria pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Là-dessus, le peloton d'exécution tua frère Monroe et frère Morales. Il y a quelques années, je suis allé au Mexique réorganiser une présidence de pieux. En ayant les entretiens, j'ai eu l'honneur de faire la connaissance d'un des descendants de Rafael Monroe. J'ai été très impressionné de la profondeur du témoignage de cet homme et de son engagement vis-à-vis de l'Évangile. Quand je lui ai demandé ce qui était arrivé au reste des dirigeants de frère Monroe, il a dit que beaucoup d'entre eux ont été en mission et restent fidèles dans l'Église. Dans les premiers temps de l'Église, d'autres disciples, en plus de Joseph Smith et de Hiram Smith, ont également donné leur vie pour l'Évangile de Jésus-Christ. La fidélité d'Edward Partridge, premier évêque de l'Église, est relevée dans les doctrines et alliances. Le 20 juillet 1833, Edward était chez lui avec sa frêle épouse qui venait d'accoucher. Trois émeutiers firent irruption dans la maison et le traînèrent dans le tumulte de la rue et puis sur la place où ils avaient déjà emmené Charles Allen. Quelques 500 émeutiers exigèrent par leur porte-parole qu'Edward et Charles renoncent à leur foi au Livre de Mormon ou partent du comté. Edward Partridge répondit, « Si je dois souffrir pour ma religion, ce n'est pas plus que ce que d'autres ont fait avant moi. À ma connaissance, je n'ai fait de tort à personne dans le comté, et par conséquent, je ne consentirai pas à partir. Je n'ai rien fait pour offenser qui que ce soit. Si vous me maltraitez, vous lésez un innocent. » Les émeutiers enduisirent alors Edward et Charles de la tête aux pieds de goudron brûlant contenant du carbonate de potasse brut, acide qui ronge la chair, et ensuite jetèrent des plumes qui collèrent au goudron brûlant. Quelques années plus tard, Joseph Smith, le prophète, caractérisa la mort d'Edward à l'âge de 46 ans par ce terme. Il a perdu la vie en conséquence des persécutions du Missouri et il fait partie de ceux dont le sang sera exigé d'eux. Edward Partridge a laissé un legs qui continue à vivre dans une grande et juste postérité. Cependant, pour la plupart d'entre nous, ce qui est exigé, ce n'est pas de mourir pour l'Église, mais de vivre pour elle. Pour beaucoup, mener une vie chrétienne journalière peut être encore plus difficile que de la donner. J'ai appris en temps de guerre que beaucoup d'hommes étaient capables de grands actes d'abnégation, d'héroïsme et de noblesse sans se soucier de leur vie. Mais quand la guerre a été finie et qu'ils sont rentrés chez eux, ils n'ont pas pu tenir le coup sous les fardeaux quotidiens ordinaires de la vie et sont devenus esclaves du tabac, de l'alcool, de la drogue et de la débauche qui ont fini par leur coûter la vie. Certains diront, je suis une personne simple, je n'ai aucun standing, je suis nouveau dans l'Église, mes talents et capacités sont limités, ma contribution est petite, ou ils peuvent dire, je suis trop vieux pour changer, j'ai déjà vécu ma vie, pourquoi devrais-je essayer? Il n'est jamais trop tard pour changer. On n'est pas disciple parce qu'on détient un poste éminent, qu'on est riche ou qu'on a fait des études poussées. Les disciples de Jésus venaient de tous les milieux. Cependant, être disciple exige de nous que nous abandonnions les transgressions mauvaises et que nous jouissions de ce que le président Kibal a appelé le miracle du pardon. Cela n'est possible que par le repentir, qui signifie que nous abandonnons le péché et prenons chaque jour la résolution d'être disciples de la vérité et de la justice. Comme Jésus l'a enseigné, quelle sorte d'homme devriez-vous être? En vérité, je vous le dis tel que je suis. Beaucoup pensent que le prix à payer pour être disciple est trop élevé et trop lourd. Pour certains, cela veut dire qu'ils doivent renoncer à trop de choses. Mais la croix n'est pas aussi lourde qu'elle semble être. Par l'obéissance, nous acquérons une force beaucoup plus grande pour la porter. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Nous pouvons vraiment nous dire disciples quand nous pouvons dire avec certitude que ces voies sont devenues nos voies. Les bénédictions que l'on reçoit quand on est disciple sont facilement accessibles à tous ceux qui sont disposés à en payer le prix. Être disciple donne un sens à notre vie, de sorte que plutôt que d'errer sans but, nous marchons fermement sur le chemin étroit et resserré qui nous ramène à notre Père céleste. Être disciple nous apporte du réconfort en temps de chagrin, la paix de la conscience et la joie du service, toute chose qui nous aide à être davantage comme Jésus. En étant disciples du Sauveur, nous savons et croyons dans notre cœur et dans notre esprit aux principes et aux ordonnances salvateurs de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. En étant disciples, nous apprécions la mission profonde de Joseph Smith, le prophète, qui a rétabli ses principes du salut à notre époque. Nous nous réjouissons que les clés de la prêtrise et son autorité aient été transmises par les présidents de l'Église depuis Joseph Smith, le prophète, jusqu'à notre prophète actuel, Gordon B. Hinckley. Nous sommes reconnaissants qu'en qualité de disciples du Sauveur, nous puissions jouir de sa promesse d'avoir la paix dans ce monde, avec le contentement, le bonheur et l'épanouissement. En étant disciples, nous pouvons recevoir la force spirituelle dont nous avons besoin pour affronter les difficultés de la vie. Une des plus grandes bénédictions de la vie et de l'éternité, c'est d'être compté parmi les disciples dévoués du Seigneur Jésus-Christ. J'ai le profond témoignage de cette vérité, dont je rends témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
Père Céleste bien-aimé, nous adressons à toi à la fin de cette session de la conférence, reconnaissant de la possibilité que nous avons eue de nous assembler dans le monde entier pour t'adorer, toi et ton Fils. Nous sommes reconnaissants de la belle musique que nous avons entendue qui a tant à ajouter à l'esprit de cette réunion. Nous sommes reconnaissants des témoignages inspirés et des instructions inspirées que nous avons reçues de nos dirigeants. Nous te prions de nous aider à les assimiler, à les intégrer à notre vie, tout ce qui était enseigné sur l'Évangile aujourd'hui. Nous t'exprimons notre reconnaissance, Père, du prophète, et te prions de lui accorder la santé et la force de continuer à nous inspirer. Nous te prions aussi pour frère Monson et frère Faust, ainsi que les membres du Collège des Douze. Père, nous sommes reconnaissants de ton Fils Jésus-Christ. Nous te remercions de sa vie, de sa mission, de ses enseignements, de son exemple, et en particulier de son sacrifice expiatoire en notre faveur. Et nous te prions de tout notre cœur de nous aider à être dignes des bénédictions qui découlent de sa grande œuvre. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Vous venez d'assister à la première session, la 176e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ, les cinq derniers jours. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Communication. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission, sans autorisation écrite, est interdite.